va regarder, êtes-vous une bonne personne? Et la question, elle se pose à tous et chacun ici. Parce que des gens peuvent fréquenter l'Église depuis des années et ne vivre qu'une religion en particulier, mais ne pas être né de nouveau, comme Jésus faisait à expliquer à Nicodème, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, dans le paradis, tu dois naître de nouveau. Il ne lui a pas dit, tu dois pratiquer une religion, tu dois devenir membre d'une église locale, tu dois naître de nouveau. Et la question qu'on peut se poser souvent, ce qui est un frein à cette démarche spirituelle, c'est souvent c'est qu'on se pense tellement une bonne personne qu'on se dit, on n'a pas besoin de faire cette expérience-là. Mais Jésus était catégorique, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau, s'il ne passe pas de la mort à la vie. Et naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Donc, c'est un miracle parce que c'est Dieu qui fait les miracles. Les pasteurs ne font pas de miracles, les églises ne font pas de miracles, mais ça vient d'en haut, comme c'est arrivé avec notre sœur Marie-Paul l'année passée. Alors, nous vivons dans une société qui nous apprend, dès notre plus tendre enfance, à bien paraître, à faire bonne impression, bref, à vivre en fonction des apparences si nous voulons gagner la sympathie des gens ou nous faire aimer d'eux. À un point tel que lorsque vous demandez aux gens de vous énumérer trois qualités qu'ils possèdent, ils peuvent rapidement vous en donner trois. Lorsque vous leur demandez de vous énumérer, de vous énumérer trois défauts, rares sont ceux qui peuvent vous en donner trois. Et si je vous passais un papier tout de suite cet après-midi et que je vous disais, écrivez-moi trois qualités que vous avez, je vous dis que ça sortirait très rapidement. Et si je vous demandais par la suite, rajoutez trois défauts que vous avez, là, ça prendrait un petit peu plus de temps. Tentez l'expérience à la maison, même tout seul, tout seul. J'ai déjà posé la question à des personnes et certaines m'ont répondu que leur principal défaut, c'est qu'elles étaient trop bonnes ou trop honnêtes. Comme si c'était un défaut d'être trop bon ou trop honnête. Les gens veulent généralement les gens veulent bien paraître aux yeux des autres. D'ailleurs, ne dit-on pas que la majorité des gens portent un masque afin de se protéger pour éviter de se montrer vulnérables. Je peux les comprendre parce que nous vivons dans un monde tellement cruel et tellement difficile, comme Marie-Paul l'a expliqué dans son témoignage. Il faut dire qu'à quelques exceptions près, la plupart des gens ont une très bonne opinion d'eux-mêmes. Par exemple, si vous leur demandez ce qu'ils doivent faire pour entrer au ciel, en supposant qu'ils croient que le ciel existe ou qu'il y a une vie après la mort, la plupart vous répondront qu'il suffit d'être une bonne personne. D'ailleurs, la grande majorité des religions, si ce n'est pas toutes les religions et les philosophies du monde, ont comme fondement des règles de conduite bien définies qui sont supposées faire de vous une bonne personne. Et ces règles, si vous les mettez en pratique, vous permettront d'espérer un jour entrer peut-être au ciel. Il vous suffit d'obéir aux 10 commandements ou de suivre différents principes ou certaines règles mises en place par différents experts en comportement ou par certains philosophes. Est-ce bien ce qu'enseigne la Bible? Est-ce que le christianisme est une des nombreuses religions dans le monde qui enseigne que le fait d'être une bonne personne vous donne automatiquement la garantie que vous entrerez au ciel quand vous allez mourir? Il y a un jeune homme qui croyait qu'il en était ainsi, et Jésus va le mettre devant certaines vérités pour lui montrer que la grande majorité des gens se trompent lorsqu'il s'agit de définir ce qu'est une bonne personne. J'aimerais lire un texte qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 19. Pour ceux qui ont leur Bible, Matthieu chapitre 19, on va lire les versets 16 à 26. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 26. Pour ceux qui ont la Louis II, version Scofield, c'est à la page 1086. Voilà. On peut blaguer un peu, hein? Alors, Matthieu, chapitre 19, 16, 26, c'est pour trouver des réponses à notre question à travers l'histoire de ce jeune homme. On va trouver des réponses. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Un seul est bon. Pourquoi Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? » Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère et aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entendit ces paroles, il s'en alla tout triste, parce qu'il était très riche. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis, c'est la vérité. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vais vous dire autre chose encore de plus. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Maintenant ici, Jésus, on est dans l'époque de Jésus. L'aiguille qui parle, c'est pas une aiguille à coude. C'était une porte qui était séparée en deux. Et l'aiguille, c'était la porte du bas quand on l'ouvrait. Donc, il y a des gens qui pouvaient passer par en bas sans qu'on ouvre le haut. Alors, imaginez-vous un chameau qui se met à genoux et qui doit ramper pour essayer de passer en dessous de là. Il est incapable, hein? Il est à genoux, avec, il y a encore les deux pattes en arrière qui sont... C'est impossible, c'est très difficile, en tout cas pour un chameau, de traverser ce genre de porte. Quand les disciples entendirent cela, et regardez ce qu'ils disent, hein? Ils furent très étonnés et disent, mais alors, parce que pour eux, c'est impossible qu'un chameau puisse passer à travers le trou d'une aiguille. Alors, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. » Il y a quelque chose qui me fait plaisir chez ce jeune homme, car contrairement à la plupart des gens, il cherche et il pose à Jésus la question des questions. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Verset 16. « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » La religion, « Que dois-je faire? » « Que dois-je faire? » Sa question révèle son état d'âme. Il me semble qu'elle révèle au moins qu'il croit qu'il y a une vie après la mort. C'est quelqu'un qui se dit, « Je suis pas sur cette terre simplement pour vivre et mourir, et puis c'est terminé. Il y a une vie après la mort, et cette vie-là, je vais avoir la certitude, avant de mourir, que j'aurai cette vie-là. » C'est une bonne question qu'il pose, frères et sœurs. Et sa préoccupation, elle me paraît parfaitement sensée. Pas insensée, pardon, sensée. Hein? J'aimerais voir plus de personnes avoir ce type de préoccupation, en fait. Et c'est peut-être votre cas cet après-midi, dans cette salle, pour certains. Il vous arrive peut-être de vous demander de temps en temps, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la certitude que je vais aller au ciel? Pour le jeune homme, c'est important d'avoir la certitude qu'il va aller au ciel, parce qu'il sait, et on lui a enseigné, que si le paradis existe, l'enfer existe également. Même si, malgré tout, il pose la bonne question, il le fait à partir de la façon dont ceux qui se considèrent bons s'imaginent qu'ils vont entrer au ciel, c'est-à-dire sur la base du mérite. Que dois-je faire de bon pour entrer au ciel? Que dois-je faire pour mériter la vie éternelle? La deuxième chose à remarquer, c'est la façon dont Jésus va répondre au jeune homme. Il va lui répondre en lui posant une question. Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Autrement dit, Jésus essaye d'aller directement au cœur de la question, à savoir que personne n'est bon, excepté Dieu. Chers amis, quand vous y pensez bien, qu'y a-t-il vraiment de bon dans l'être humain qui pourrait lui permettre de répondre aux fantastiques exigences d'un Dieu trois fois saint? Comme nous l'avons mentionné il y a quelques instants, le raisonnement du jeune homme est faussé dès le début. Quand il pense que quelqu'un est capable de faire ce qui est bien, de répondre aux exigences de Dieu et de gagner ainsi le droit d'entrer au ciel. Pour faire valoir son point de vue, Jésus dit que s'il veut avoir la vie éternelle, il doit obéir aux commandements. Et en disant cela, Jésus n'est pas en train de sous-entendre que le jeune homme peut entrer au ciel en faisant de bonnes œuvres. Au contraire, il est plutôt en train de remettre en question la façon de penser du jeune homme en lui démontrant qu'il a mal saisi le principe de la loi et sa capacité à obéir à la loi. La réponse du jeune homme, elle est très révélatrice ici dans le texte. Lorsque Jésus lui dit qu'il doit obéir aux commandements, il lui demande lesquels qu'il faut observer pour aller au ciel. Afin que le jeune homme se rende compte jusqu'à quel point il se trompe, Jésus poursuit gentiment sa discussion avec lui en citant le deuxième commandement qui parle de la relation que nous devons avoir avec les autres. Et vous pouvez dans le texte, si vous regardez le texte attentivement, vous pouvez presque sentir la frustration du jeune homme dans la réponse qu'il donne à Jésus, lorsqu'il dit qu'il a observé toutes ces choses depuis sa jeunesse. Frères et sœurs, il y a deux choses qu'on doit remarquer ici. D'abord, ce qui est ironique dans la réponse du jeune homme, c'est lorsqu'il dit qu'il a observé tous les commandements. Deuxièmement, en disant cela, il venait de désobéir au commandement qui parle du mensonge. S'il avait été vraiment honnête, il aurait dit qu'il avait fait tout son possible pour observer les commandements, mais que chaque jour, il avait échoué. Il avait une compréhension superficielle de la loi et une opinion exagérée de sa propre capacité à observer tous les commandements. Ensuite, il savait qu'il n'était pas suffisamment bon puisqu'il dit à Jésus, « Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? » Et c'est peut-être une des questions que certains se posent ici. « Que me manque-t-il encore pour avoir l'assurance que j'aurai la vie éternelle? » Et pourtant, sa réponse révèle ses illusions. Au fond, il n'a pas compris la loi. Quand un homme peut dire comme ce jeune homme, j'ai observé toutes ces choses, il s'exprime exactement comme certains s'expriment aujourd'hui lorsqu'ils disent, je n'ai jamais rien fait de mal à personne. Ils voudraient peut-être mieux demander à leurs voisins, à leurs amis, à leurs parents et à leurs enfants ce qu'ils en pensent pour savoir si c'est vrai qu'ils n'ont jamais fait de mal à personne. Jésus est en train de lui dire, écoute, jeune homme, tu t'illusionnes. Tu n'as pas tout observé, loin de là. Et avec ces illusions, il y a certainement une dose d'orgueil dans le cœur du jeune homme. Alors Jésus, ce qu'il va faire, il va maintenant confronter ce jeune homme qui n'avait rien à lui reprocher. Et il va lui révéler en une phrase où se trouve le véritable problème. Où se trouve l'idole dans ce cœur et quel est le remède face à la situation présente. Jésus va lui dire au verset 21, « Si tu souhaites être parfait, en d'autres mots, si tu veux aller jusqu'au bout, si tu veux obtenir la vie éternelle, alors va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Est-ce que la loi me demande de tout vendre? Pas du tout. Mais Jésus, dans le cas qui se trouvait devant lui, avait parfaitement identifié le point faible du jeune homme. Il était attaché à l'argent. La grande richesse de cet homme était devenue son Dieu dans sa vie. Il affirmait avoir observé tous les commandements, mais en réalité, il ne pouvait même pas obéir au premier commandement qui dit que nous ne pouvons pas avoir d'autre Dieu dans nos vies que le Dieu créateur. Il est écrit que le jeune homme tourna le dos à Jésus et qu'il s'en alla tout triste, car son Dieu c'était ses biens. Et il va choisir de garder ses richesses plutôt que de suivre Jésus et de s'amasser des richesses dans le ciel. Au fond, que lui demandait Jésus ici? Il lui demandait simplement un transfert de confiance. Jeune homme, tu as confiance dans tes richesses, tu as confiance dans ta bonne éducation, tu as confiance dans ton obéissance à la loi. Eh bien, abandonne tout cela et puis suis-moi. Cesse de mettre dans ta confiance dans ce que tu es et dans ce que tu as et mets ta confiance en moi. Et ça, c'est un pas incroyablement difficile pour la plupart des êtres humains à faire. Arrête de mettre ta confiance dans ce que tu es, arrête de mettre ta confiance dans ce que tu as, mets ta confiance en moi. Mais ce jeune homme n'a pas voulu accepter ce que Jésus disait. Il n'a pas voulu reconnaître qu'il n'obéissait pas à la loi. Il n'a pas voulu reconnaître qu'il avait besoin de placer réellement sa confiance en Dieu. Jésus va alors se tourner vers ses disciples pour leur enseigner un principe. Il va utiliser une comparaison qui nous paraît complètement folle quand il dit qu'il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ce que Jésus venait de dire ici avait sûrement choqué ses disciples, qui pensaient, comme à notre époque d'ailleurs, que posséder beaucoup de biens était un signe de bénédiction de la part de Dieu. Mais Jésus voulait montrer jusqu'à quel point les richesses peuvent souvent devenir un piège pour les gens, en leur faisant croire qu'ils sont en sécurité et à l'abri de tous. Et on a vu encore la semaine passée en France, je ne me souviens pas dans quelle région, il est tombé en 5 minutes 1,70 m d'eau. Et les gens étaient sortis de leur maison, pleuraient aux larmes. Et on entend des témoignages qui disaient, « J'ai tout perdu ce que j'ai amassé dans ma vie. J'ai tout perdu, j'ai perdu mes biens, ma maison. J'ai perdu mes animaux, j'ai tout perdu. Ouais. » Et dans un monde matérialiste, c'est ce à quoi les gens s'accrochent. Mais c'est tellement bâti sur des sables mouvants, les biens qu'on a. On a des biens aujourd'hui, ça peut nous glisser entre les mains le lendemain. Les disciples vont dire à Jésus, alors, qui peut être sauvé? Si c'est ainsi, mais qui peut être sauvé dans ce monde? Et Jésus va leur regarder et leur dire aux hommes, ce n'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Voilà la grande leçon de ce texte. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et quand Marie-Paul est rentrée ici l'année passée, à peu près à la même date, raconter sa vie avant d'entendre l'Évangile. On se serait dit, mais est-ce que Dieu va être capable de sauver cette personne-là avec tout le vécu qu'elle a? Et Dieu lui avait donné rendez-vous dans cette église. Et Dieu devait parler à Marie-Paul ce soir-là. Dieu devait toucher son cœur. Et Dieu, tout ce qu'elle a entendu, c'est « Mets ta confiance en moi. Place ta confiance en moi. Crois en moi, dit Jésus. » Et c'est ce qu'elle a fait. Un simple pas de foi. Elle l'a dit, hein, comme un enfant. Comme un enfant. Comme un enfant. Aucune religion, aucune philosophie, encore moins le fait d'être une bonne personne, ne peut garantir à quelqu'un qu'il peut avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que personne ne peut prétendre être une bonne personne, finalement. Personne. Il n'y en a qu'un seul qui est bon, dit Jésus, et c'est Dieu lui-même. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Dans une autre version plus facile à comprendre, on nous dit que tous les hommes ont péché et sont tous privés d'entrer au paradis sur la base de leurs bonnes œuvres, sur la base de l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Et que le salaire que paye le péché, la conséquence de nos péchés, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire séparés de Dieu pour l'éternité. Dans un lieu, on va regretter à tout jamais de ne pas avoir accepté l'offre que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et le seul lieu, je l'ai dit tantôt, c'est l'enfer. Il y a le ciel, il y a l'enfer. Je ne suis pas ici pour vous raconter des mensonges. Je suis ici pour vous raconter ce que la Bible dit. C'est Jésus qui en a parlé. C'est un choix que les êtres humains font où ils vont passer l'éternité. Dieu nous donne la grande responsabilité de choisir. J'ai fait ce choix il y a 35 ans. Il y en a qui l'ont fait il y a 60 ans. Marie-Paul l'a fait l'année passée. Et Marie-Paul, elle a l'assurance que si Dieu la rappelle aujourd'hui ou demain, elle va entrer dans la présence de Dieu, dans le paradis. Heureusement que Dieu n'a pas attendu que nous soyons bons pour envoyer Jésus. Dieu nous a montré jusqu'à quel point il nous aime. Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, nous dit la parole de Dieu. L'assurance de pouvoir entrer au ciel n'est pas basée sur notre bonté, mais sur la bonté de Dieu. Si de notre bouche nous affirmons que Jésus est le Seigneur, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, nous serons sauvés, c'est-à-dire que nous aurons la certitude que tous nos péchés sont pardonnés, sont effacés et que nous passerons l'éternité dans le paradis. C'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est pas une bonne nouvelle. Merveilleuse nouvelle. Il n'y a aucune religion qui garantit ça à personne. Peut-être que si tu fais ça, tu vas peut-être entrer au paradis. Peut-être que si tu fais ça, tu vas peut-être entrer au ciel. Mais ici, on n'est pas avec des peut-être, on est avec des certitudes. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la parole. Et vous voulez avoir une certitude, regardez juste cette croix. Jésus, il n'est pas sur la croix. Hein? Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui est mort et qui est encore sur la croix depuis 2000 ans. Hein? La croix, elle est vide parce que Jésus, non seulement il est mort pour vos péchés, mais il est ressuscité. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et la parole nous dit qu'un jour, il va revenir chercher les siens et qu'il va mettre fin à toute cette misère dans le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et que ceux qui ont placé leur espérance en lui, eh bien, il va recréer une nouvelle terre, des nouveaux cieux où il n'y aura plus de péché, plus de maladie, ouais. Plus de guerre, plus de larmes. Quel beau monde Dieu est en train de nous préparer. Ouais. Mais il n'y a personne de suffisamment bon pour mériter le ciel. Il y en a un seul. C'était celui qui était sans péché, qui a pris sur lui nos péchés, mon péché, votre péché, qui a été fait péché pour nous, qui a subi toute la colère que nous aurions dû aller subir. Il a subi toute la colère de nos péchés sur lui. Sur lui. Et à la croix, il s'est retrouvé tout seul. Tout seul à la croix. Ses disciples l'avaient abandonné. Les gens qui étaient en avant de la croix se sont moqués de lui. Et pourtant, il s'est rendu jusqu'au bout. Il a bu la coupe jusqu'au bout, frères et sœurs. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle aujourd'hui qui se pose des questions et qui voudra avoir des réponses à ces questions, en terminant, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Marie-Paul l'année passée. Frères et sœurs, c'est ce que Jésus a promis à un des deux malfaiteurs qui était sur la croix. L'un des malfaiteurs suspendus sur la croix insultait Jésus en disant « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! » Mais le deuxième malfaiteur lui fit des reproches et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? » Pour nous, cette punition est juste et c'est extraordinaire. Je le répète souvent quand je prends l'exemple du malfaiteur. Mais quand le malfaiteur qui a les deux bras attachés sur sa croix dit « Pour nous, cette punition est juste, mais pas pour lui. Il est en train de dire, moi, je suis un pécheur. Moi, j'ai mené une vie de péché, mais pas lui. Et en fait, lui, il devrait être décroché de la croix parce qu'il ne mérite pas ce châtiment-là. Ouais. Ouais. Le pécheur, le malfaiteur, il est attaché. Il ne peut pas faire rien de bon pour gagner son ciel. Il ne peut pas faire aucune bonne œuvre pour recevoir, être accepté par Dieu. Et regardez ses paroles, mais c'est une confession de foi incroyable. Un bandit, un meurtrier de la pire espèce. Quel témoignage? Alors que les bonnes personnes sont les plus difficiles à amener au pied de la croix. Les bonnes personnes, parce qu'ils croient souvent qu'ils n'ont pas besoin du sacrifice de Jésus. Regardez ce qu'il dit. « Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité pour nos actes. Il n'y a personne qui mérite le ciel. Si Dieu devait nous condamner, nous juger sur la base de ce que nous sommes, nous méritons tous l'enfer, frères et sœurs, tous d'être punis. Mais Dieu est un Dieu qui est gracieux. Et Dieu nous punit. Il ne veut pas nous juger sur la base de ce que nous avons fait. Sur la base de ce que nous avons fait, c'est déjà jugé à la croix. Ce que nous devons faire, c'est accepter qu'il y en a un qui est mort pour nous, qui a pris sur lui la punition de nos péchés. Et Dieu nous dit, écoute, tes péchés sont effacés. Le livre dans lequel tous tes péchés apparaissaient, tous les péchés de ta vie, eh bien, Jésus te donne le sien. Ce sont des pages blanches. Et quand tu comparaîtras devant moi, il n'y a aucun péché qui va apparaître parce qu'il est déjà tous pris sur lui. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, frères et sœurs. Ce n'est pas une bonne nouvelle. On peut dormir en paix. On est pardonné. On est racheté. On est sauvé. Et regardez ce qu'il dit. Pour nous, cette punition est juste car nous recevons ce que nous avons mérité pour nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Il n'a pas été dans, il n'a pas fréquenté d'église locale, ce gars-là. Il reconnaît qu'il est pécheur. Il reconnaît que Jésus est mort pour ses péchés. Il reconnaît quand tu viendras, il reconnaît que Jésus va ressusciter. Quand tu reviendras, Jésus, quand tu reviendras, quelle confession de foi. Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas sur la base de ce que tu as fait, sur la base de ce que tu as confessé. Que toi, tu mérites le châtiment pour tes péchés. Ouais. Le malfaiteur, il n'a jamais pensé qu'il était une bonne personne. Il savait ce qu'il était. Et il savait qu'il méritait le châtiment. Ce salut en Jésus est un cadeau que Dieu nous fait. Et comme tous les cadeaux, comme tous les dons, le pardon des péchés nous est offert gratuitement et nous garantit la vie éternelle. Car c'est par la grâce de Dieu que nous sommes pardonnés de nos péchés et acquittés du jugement à venir, et ce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce don n'a pas le résultat, n'est pas le résultat de nos efforts, afin que personne ne puisse se vanter d'avoir gagné son ciel, ou d'avoir mérité le ciel, ou d'avoir réussi à entrer au ciel par ses propres forces. Chers amis, en terminant, le message de l'Évangile, c'est que nous ne pourrons jamais être suffisamment bons pour entrer au ciel. Si nous voulons avoir l'assurance d'entrer au ciel, nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs et que Dieu a offert Jésus en sacrifice, afin que par sa mort, il obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. En faveur de ceux qui croient en lui. Un jour, Jésus était en train de parler avec des gens qui affirmaient être des bonnes personnes. C'étaient des personnes très religieuses. Et Jésus va leur dire, « Je vous le déclare, c'est la vérité, les collecteurs d'impôts, qui étaient considérés comme des voleurs à l'époque, et les prostituées arriveront avant vous dans le royaume de Dieu. Vous qui vous pensez bonnes personnes, qui n'avez rien à vous reprocher, alors que la Bible dit qu'on tous ont péché. Je vous le dis, les collecteurs d'impôts, les voleurs, les bandits, ceux que, sur lesquels vous crachez dessus, le petit peuple, les petits minables, ils vont vous précéder dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ces bonnes personnes se croyaient sans péché et qu'elles refusaient de se repentir. Comme ce malfaiteur, nous avons besoin de nous repentir de nos péchés et placer notre confiance en Jésus-Christ pour recevoir le pardon de nos péchés. Seul Jésus est qualifié pour que nous méritions d'entrer au ciel. Et en donnant sa vie sur la croix pour nos péchés, il a pris sur lui la condamnation que nous méritions pour nos péchés. Et parce que nous croyons dans ce sacrifice, Dieu nous rend justes devant lui. Si vous voulez recevoir le pardon de vos péchés et être sauvés du jugement à venir, je vous invite à prononcer cette prière avec moi dans votre cœur. Je vais vous inviter à courber la tête et à fermer les yeux pendant 2 minutes. Et je vais vous inviter à prononcer cette prière avec moi dans votre cœur. Seigneur Dieu, je sais que tu veux me sauver parce que j'ai péché contre toi. J'ai vécu jusqu'à aujourd'hui pour moi-même et je veux abandonner toute ambition personnelle pour faire maintenant ta volonté. Merci d'avoir payé sur la croix le prix exigé par la loi pour que mes péchés soient effacés en mourant pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts le 3e jour et que quiconque croit en toi est déjà passé de la mort à la vie. Seigneur Jésus, je te remets ma vie. Viens dans mon cœur, pardonne mon péché et sauve-moi. Merci de m'avoir sauvé, Jésus, et commence à faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je te donne entièrement mon cœur parce que je te fais confiance. Amen.